Parce que les problèmes font partie de notre vie au quotidien et que les solutions sont les pas qui manquent, au Café Service, on met au centre de vos préoccupations et fait le relais avec les autorités compétentes pour trouver une solution. Au Café Service, nous sommes à votre service. De lundi à vendredi, de 9h, on est tous à ça.
Nous parlons à présent du rôle d'un observateur électoral. Pourquoi doit-il y avoir des observateurs lors des élections? Jérôme Bosso est notre invité. Bonjour, Monsieur Jérôme.
Bonjour, Philippe.
Nous rappelons que vous êtes le président de la Ligue nationale pour les élections libres et transparentes. C'est qui un observateur électoral?
Un observateur électoral, c'est une personne, c'est une dame formée aux techniques d'observation électorale et de monitoring électoral, et c'est comme une fois formé, il est accrédité par le pouvoir organisateur des élections. Parce que quand on est accrédité, on a maintenant la qualité de l'observateur électoral. Qui est chargé d'accréditer l'observateur électoral? C'est le pouvoir organisateur des élections. Alors, dans notre pays, c'est la Commission électorale nationale indépendante. Dans d'autres pays, c'est le ministère de l'Intérieur. Et à ce niveau-là, il y a deux catégories d'observateurs. Il y a des observateurs électro-domestiques, c'est-à-dire les Congolais, en ce qui concerne les élections institutionnelles, et il y a des observateurs internationaux. Eux qui viennent de l'autre côté, en dehors de notre pays, ils sont aussi accrédités par le ministère, par le pouvoir organisateur des élections à travers le ministère des Affaires étrangères. Mais à ce moment, il y a un problème qui se pose. Il est formé aux techniques. Mais quel est son rôle?
Quel est le rôle de ce monsieur ou de cette dame?
Parce que quand on organise les élections, il y a la méfiance totale. La présence de l'observateur permet d'accroître la participation massive de la population aux scrutins. La présence de l'observateur électoral va remettre la confiance dans le procès électoral, va légitimer et crédibiliser les résultats électoraux. La présence de l'observateur électoral va sécuriser la tenue des élections. Et cette présence va contribuer à la transparence du procès électoral et va aussi décourager la fraude ou tricherie électorale et la manipulation du scrutin. Mais cet homme, une fois formé, quel est son travail? Il va essayer de conduire à déceler les faillances et les irrégularités, le fraude tricherie électorale et faire le rapport aux autorités compétentes. Et il va résister à l'intimidation, il va résister à la corruption. Mais son travail sera basé sur l'impartialité, l'indépendance et l'objectivité. C'est à ce point-là que l'observateur électoral est différent d'un témoin d'un parti politique. Parce que la formation d'un témoin d'un parti politique, ce monsieur va faire le travail sur base partisane. Il va être dans son bureau, il va faire le rapport à son chef de parti et il est capable de tout remettre en question. Tandis que l'observateur électoral est en train de faire son rapport aux autorités compétentes.
Voilà. Donc, disons, un observateur doit, dans chaque bureau de vote, il faut qu'il y ait combien d'observateurs?
Oui, vous savez, l'élite a déjà eu cette grande expérience après avoir fait plus de 45 missions d'observation internationales et nationales à travers le monde, les différents continents. Et dans la plupart des cas, il y a des observateurs qui sont mobiles, qu'on envoie, qui dépassent d'un bureau à l'autre. Mais pour arrêter au niveau de notre plateforme Agir pour des élections transparentes et apaisées, nous nous sommes dit, on va des observateurs électoraux de proximité. C'est-à-dire, dans chaque bureau de vote, la CENI a arrêté. Ce sont 2000 bureaux de vote. Dans chaque bureau de vote, nous devons avoir au moins un observateur de proximité et un observateur en ville en question. Et de deux, l'un va essayer de faire d'avoir la température générale de l'ensemble des bureaux de vote et l'autre va avoir un bureau spécifique où il doit faire son travail. Le début, l'ouverture des bureaux de vote, la clôture, le comportement des candidats ou bien des de parti politique, le comportement des agents électoraux dans un bureau de vote, et tout ça.
Donc, cet observateur doit être là du matin
en soi. Jusqu'au début, moi. Et il a sa fiche et il va aussi faire ses calculs de ce qui s'est passé, tout ce qui s'est passé. Et le souci, le but, c'est quoi? C'est assurer la transparence dans le bureau de vote. Pourquoi il y a des enjeux qui se dressent? À l'ouverture, tout en clôture, et lors du dépouillement. Et cet observateur formé aux techniques d'observation et de monitoring, il va faire son travail. Mais nous avons déploré lors de la campagne. Si nous avons déployé l'inédit qui avait déployé 50 observateurs électoraux. Mais cette fois-ci, nous voulons doubler, tripler, en français avec d'autres amis qui sont dans notre plateforme, pour que nous puissions couvrir l'ensemble du terrain.
Et pourquoi vous n'avez pas pu envoyer beaucoup d'observateurs lors des élections de 2006?
Il y a eu un problème. Vous savez, c'est pas facile. Aucune organisation peut prétendre couvrir l'ensemble du territoire national, mais nous l'avons fait dans certaines provinces ciblées que nous, l'Église avait ciblées. Mais cette fois-ci, nous allons améliorer l'observation électorale domestique en concert avec d'autres partenaires, d'autres structures qui vont s'occuper de l'organisation, les églises, les syndicats et d'autres ONG. Nous allons faire ce travail, une concertation, une coordination pour que ensemble et les collègues qui viendront de l'extérieur, nous puissions nous déployer sur l'ensemble du territoire national pour sécuriser et pour accroître la confiance de la population congolaise dans le processus électoral.
Et quels sont les critères auxquels il faut répondre pour devenir observateur électoral?
On passe tout d'abord par ce qui est identifié auprès de l'organisation. Par exemple, vous vous identifiez auprès de la LINELIT ou bien de la plateforme Agir pour les élections transparentes et apaisées, et vous avez suivi une formation. Il y a toute une matière. Dans cette matière, il y a ce qu'on appelle, par exemple, l'ontologie de l'observateur, l'attitude, le comportement de l'observateur.
Comment doit-il se comporter?
Ce monsieur doit se comporter en tant que citoyen indépendant, impartial, objectif. Et il ne va pas confondre sa mission à celle d'un parti politique. Il ne doit pas être là pour bloquer le bus électoral en pleine opération pour intervenir comme moi du observateur électoral. Nous avons déploré dernièrement, lors des élections de 2006, on avait déployé les individus qui avaient eu l'accréditation d'observateur électoral, qui n'avaient aucune notion, aucune formation préliminaire de faire ce travail. Et pourquoi? C'est pourquoi on a constaté certains observateurs, soi-disant observateurs électoraux, qui se permettaient de donner des instructions aux agents électoraux. Ce qui ne fait pas le travail de.
C'est pas le rôle.
Non, c'est pas le rôle. C'est pourquoi nous disons cette fois-ci, comme on forme l'observateur, il faut voir quel est le module. Quel est le module sur lequel on forme, parce qu'on ne peut pas ramasser des choses comme ça. Il faut recourir aux structures spécialisées dans la matière, qui ont des modules spécialisés pour former les observateurs. Si l'état de parti politique, ils doivent courir aux organisations comme la Générique, on forme les témoins de parti politique. Nous avons les techniques, comment le former et comment un témoin de parti politique doit faire son travail tout à fait différent de celui de l'observateur électoral.
Voilà. Vous avez des questions, des préoccupations, appelez-nous au 081-890-63-94. Alors, parlons à présent des observateurs internationaux. Comment se fait leur accréditation?
Oui, les observateurs internationaux, la loi prévoit l'accréditation, eux, ils s'adressent aux affaires étrangères, au ministère des Affaires étrangères. C'est à travers le ministère des Affaires étrangères, ils se font accréditer.
Donc, il y a eux-mêmes qui proposent.
Il y a aussi les observateurs. Il y a les observateurs électoraux, déployés par le gouvernement, et les autres qui sont devant. L'organisme, il s'adresse à la commission électorale par le biais du ministère des Affaires étrangères. Mmh. Et ils se font accréditer. Alors, quand il arrive ce coin, ils viennent aussi faire le travail. Mais attention, la mission d'observation internationale a aussi des problèmes. Si il y a, quand bien même ils viennent pour assurer la transparence, mais ces observateurs, ils sont redoutés. Ils parlent les uns comme des témoins gênants. S'ils vont faire un travail dans l'objectivité, pourquoi ils viennent? Parce qu'ils vont dire la vérité, c'est que c'est pas du tout le terrain. Moi, j'ai observé les élections en 1996 dans la Fédération de Russie. La Fédération de Russie a refusé d'accréditer certains observateurs de l'autre pays parce que ces pays-là n'étaient pas en bonne intelligence avec le gouvernement en place. Et ces gens, ils sont redoutés comme tout le monde, non? Tout comme ils sont aussi accusés d'être les complices objectifs de la fraude électorale. Vous verrez, certains observateurs internationaux, ils débarquent, le résultat n'est pas encore terminé, ils commencent à donner un communiqué du prix. Établi, un communiqué laconique préétabli pour dire, malgré tout ce que nous avons constaté, que le procès qui est normal, et ça ne remet pas en question. Donc, c'est là le comportement, parce que quand on accueille des observateurs internationaux, ils viennent pour les intérêts de leur pays, pour la plupart les diplomates ou bien les députés qui viennent pour observer. Ils viennent avec l'agenda de leur pays, ils ne peuvent pas mettre en question les intérêts de leur pays.
Pour qu'ils ne se concertent pas avec les observateurs domestiques pour essayer d'avoir un rapport commun.
C'est au niveau des observateurs qui viennent des organismes indépendants, étrangers, mais ceux qui viennent du gouvernement, quand le gouvernement, tel gouvernement, déploie ses observateurs, les députés, les ministres. Et non pas à se concerter avec les observateurs domestiques. Ils ont à donner déjà des informations pour dire que nous soutenons, c'est bien ça, il peut se passer. C'est pourquoi ils sont considérés comme des complices objectifs de la fraude électorale. Donc, à ce niveau-là, on doit faire beaucoup d'attention élections, parce que même au niveau national, si on parvenait à manipuler les autorités domestiques et les élections nationaux, et il risquerait aussi de donner le problème. Sur d'autres sujets où la MINUSMA a fait des missions d'observation, on a constaté que la mission d'observation domestique faisait des documents parallèles. Et le gouvernement et d'autres partenaires faisaient confiance à ces missions-là pour dire quels sont les résultats que vous avez pu récolter à votre niveau, si c'était du moins objectif.
Donc les observateurs font également des documents.
Non, des documents parallèles. Les ressources d'information, parce qu'ils ont déployé les gens dans différents bureaux de vote, dans différents centres de circulation, dans les différents bureaux de vote. Oui, les centres de compilation. Mmh. Et c'est là ils ont des techniques appropriées par les SMS, par les ordinateurs. Ils donnent l'information à temps réel et au niveau du groupe, on a les informations. Nous avons fait
les documents. Donc ils peuvent déjà publier les résultats, non?
Pas publier. Il doit déjà les tendances. Il doit des tendances, voilà, à quel niveau il y a des anomalies à tel point, voilà, nous l'avons déjà. C'est le cas au Bénin. Le collègue de la société civile béninoise avait développé un document parallèle, il avait déjà des informations. Quand la Sénat, comité des zones nationales autonomes, a donné les jeux, il y a eu des contestations, mais tous se sont référés au document parallèle de la société civile béninoise qui a rassuré les Béninois. Voilà la vérité de l'histoire. Mais il ne peut pas se en lieu que du pouvoir organisateur des élections qui est le Sénat.
Voilà. Les questions des préoccupations, composées de 081-890-63-94.
Radio Okapi, Radio Akinya, Obolenge Libwa Makwanoni, Kobanda Omiya Santa, Tufumi Bale la Libwa, Bokolanda Manaka Masipa Babengi, Question à la CENI, Mpeli Soussou, les élections, c'est facile à comprendre. Mikolo Minso, au Radio Okapi, Libakouli Lamu, Paul Abimo, Kostou Lamituna Minso, Kobanda Sika, au Commission électorale nationale indépendance, Ondela ya SMS, au numéro 081-006-5710, OP Ondela ya boîte email, élection. @radiokapi.net. Motuna mituna osemi, kobanda lelo loye, nde bozibi ya lokobanda omya sanza tukumi bale na libwa, sanza ya mwambe, bobele o Radio Kapi.
Quel est le rôle d'un observateur électoral? Jean Bosco, président de la Ligue nationale pour les élections libres et transparentes, est notre invité. Pour participer, appelez-nous au 081-890-63-94. Vous pouvez également nous écrire à service@radiocapi.net. Alors, Jean Bosco, comment s'est fait concrètement l'accréditation? Il faut introduire une demande écrite au niveau à la CENI et après, quel est le processus?
Oui, pour se faire accréditer, il y a toute une démarche. Ce n'est pas un individu qui se pointe là-bas, là, c'est pour dire je suis venu me faire accréditer.
Comme observateur électoral.
C'est pas un mécanisme. Il y a des organisations de la société civile. Vous prenez par exemple la LIMELIC, vous prenez par exemple Agir pour les gestions transparentes et APT. Vous êtes fait former.
Les églises, la société civile, les confessions religieuses.
Oui, qui forment, qui auront une session de formation des observateurs. On passe obligatoirement par une session de formation des observateurs. Il y a tout un module bien approprié pour faire ce travail. Une fois avoir la formation et votre structure, que ce soit Cinco ou bien d'autres professions religieuses ou la société civile, ils dressent la liste pour adresser au pouvoir organisateur des élections, la Commission électorale indépendante, pour demander l'accréditation.
Oui.
Parce que la loi le prévoit que une des missions de la CENI, c'est d'accréditer les observateurs nationaux et internationaux. Et une fois la liste introduite, la CENI va juger, va examiner la liste qu'on lui a déposée, parce qu'il a fait un nom pour mettre des intrus, et il va dresser la liste et il va faire des accréditations. Une fois accrédité, on est observateur. Mais quand on est observateur, on ouvre la carte d'accréditation, selon la loi, cette carte vous protège pendant votre travail, pendant votre mission. À ce moment-là, si vous ne pouvez pas, en faisant votre travail, on ne peut pas mettre la main sur vous. Mais il y a aussi ce qu'on appelle la déontologie de l'observateur, les prérogatives et devoirs de l'observateur. Ce n'est pas parce que vous êtes accrédité par le CENI, vous devez donner des leçons aux agents de l'État, vous devez perturber
vous faites le travail, vous observez,
vous prenez note, vous faites votre travail,
oui.
Et quand c'est de ça ne va pas, vous allez intervenir. Mais moi, j'ai connu ça quand j'étais accrédité lors des élections 96 dans la Fédération de Russie. La loi russe prévoyait que quand un observateur électoral parvient à constater une irrégularité, une anomalie, il doit faire il doit réagir dans le bureau district.
Il doit réagir.
Même devant la presse, il doit réagir. Ça, c'est la loi. C'est une bonne question. Mais dans la plupart des pays, vous ne devez pas réagir comme ça. Vous risquerez de mettre du feu, parce qu'une déclaration de, en pleine opération électorale, ça peut pour bloquer toute la machine. Oui. Donc, on a préféré.
Il faut se réserver.
Il faut se réserver, mais faire le travail et faire le rapport pour le montrer. On regarde ce que nous avons constaté des irrégularités, de fraude massive. Ce processus n'est pas crédible. Pourquoi on recourt à l'observatoire électoral? C'est pour crédibiliser le processus. Oui. Pour rassurer, donner la chance à tout le monde. Donner la chance à toutes les parties prenantes au conseil électoral.
Alors, donc, dès qu'on amène les urnes, par exemple, on ouvre, il est là, il observe mais comment tout se passe,
lors de
la mise en place.
Lors de sa formation, il a une fiche. Il y a une checklist. Dans la checklist, les opérations lors de l'ouverture du bureau de vote, ça commence à quelle heure? La loi dit que ça commence à 7h ou à 7h30, mais là on commence à 8h30. Pourquoi ils ont commencé à 8h30? Pourquoi ils ont réussi à travailler? Ça a commencé.
Il faut une explication.
Donc vous avez toute une liste, une checklist,
oui.
Et vous crochez, vous dites à telle heure, il y a telle anomalie.
Oui.
Et quand vous avez un centre de documents parallèle établi par les structures comme la société civile, vous donnez un message codé en votre centre, il y a telle anomalie. Et au niveau du centre, on a des informations qu'il y a des anomalies à tel endroit et tel endroit et ça ne va pas.
Oui.
Il ne faut pas faire autant de bruit pour bloquer la machine. Et à ce moment-là, après les opérations, la mission d'observation va faire un rapport adressé et à la CENI et aux autorités du pays. Voilà les anomalies qu'on a constatées. Et on donne un fait à rapport qui montre qu'il y a autant d'anomalies qui empêcheraient la règle du processus électoral.
Jerry Moubanda nous appelle de Kinshasa, bonjour.
Bonjour, monsieur.
Jérémy, nous parlons aujourd'hui du rôle d'un observatoire électoral. Qu'est-ce que vous avez à nous dire?
Oui, justement, j'interviens au rapport à ce que votre invité vient de dire là.
Oui.
Ok. Moi, je pense que, comme il le dit tout à l'heure, à propos des observateurs et tout ça, ils ont des intérêts personnels et tout de suite. Ça va? Oui?
Oui, allez-y, s'il vous plaît, Jérémy, veuillez éteindre la radio qui est à côté de vous parce qu'il y a des. Le feedback aussi à l'antenne. Veuillez éteindre la radio, vous allez suivre à partir de votre téléphone.
Ok, d'accord, c'est fait.
Oui, ok, allez-y, posez votre question.
Oui, je disais ceci. Nous, les Africains, nous avons quelque part établi notre culture.
Oui.
Si je dis cela, c'est parce que s'il y a, par exemple, les membres d'une famille qui ont des disputes, ils vont peut-être faire appel à d'autres personnes pour qu'on puisse trouver une solution.
Oui.
Mais chez nous, ici, ce n'est pas le cas. Nous avons tout importé. Tout et tout. Les rôles des observateurs internationaux, ça sert à quoi? Est-ce que nous-mêmes, nous sommes incapables, nous, vraiment, de nous organiser? Voilà, c'est un peu ça. Hein? Moi, je suis nationaliste. Hein? Voilà, c'est ça.
Merci, Jérémie. Oui, merci, Jérôme.
Jérémie, les élections, c'est un mécanisme de résolution pacifique des conflits dans toute région ou sous-région, membre de l'Union des Nations Unies. C'est au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies, il y a eu une résolution qui incite tous les pays qui ont organisé des élections et que la communauté internationale puisse s'intéresser. Pourquoi la présence de la communauté internationale et des observateurs internationaux? Parce que les élections, ce n'est pas une affaire locale, c'est une affaire qui concerne le monde entier, et le monde est devenu un village planétaire, et ce que nous faisons, nous devons, parce que toutes les chaque élection doit avoir un double caractère, la crédibilité interne et externe. Si les élections n'ont pas la crédibilité externe, vous voyez, ça pose beaucoup de problèmes. Vous avez vu le cas de Côte d'Ivoire, où Laurent Gbagbo avait la crédibilité interne, mais sur le plan extérieur, ces élections pour la communauté internationale, les élections, la victoire de Laurent Gbagbo n'était pas celle-là. Et c'est pourquoi nous avons voulu que les élections construisent une voie par laquelle on doit résoudre facilement le conflit.
Oui.
Nous devons toujours recourir à l'observation externe et interne.
Alors, Jerry, vous avez suivi? Oui, vous êtes allé, vous avez suivi la réponse de M. Jérôme.
J'ai suivi la réponse, mais je ne suis pas satisfait. Je lui pose la question.
Oui.
Je dis ceci, est-ce que cette communauté internationale, parce que là, on fait autant, on parle de la communauté internationale, on voit les pays occidentaux, et ainsi de suite, tout ça. Est-ce que nous, les Africains, nous avons aussi les droits d'aller là-bas pour surveiller les élections?
Oui, nous, après que nous avons aussi le droit d'aller là-bas, c'est pourquoi moi je suis allé observer les élections en Grande-Bretagne, je suis allé observer les élections dans la Fédération de Russie, je suis allé observer les élections au Zimbabwe et dans d'autres pays africains, en Zambie, quand Kiluba a été élu président de la République, et quand il y a eu Kiluba qui ne voulait pas la présence des observateurs internationaux, et la population s'est imposée, non, à Kaunda, la population s'est imposée, s'est appropriée du processus électoral zambien, et il a fini Kaunda avait fini par accepter la présence des observateurs internationaux, oui. Et le travail s'est fait. C'est donc, ça vous dit que les élections, ce n'est plus une affaire interne, oui. Mais ça a une dimension internationale. C'est très important parce que quand vous organisez les élections, vous devez penser maintenant à la construction, en ce qui concerne notre pays, à la construction du pays. Mais comment un parti, un investisseur puisse venir dans un pays où il y a eu un chaos, il n'y a pas eu des élections transparentes et démocratiques, oui. Et la population n'a pas adhéré au projet de société, et ça va poser encore de problèmes. C'est pourquoi on passe par les élections pour résoudre le problème.
Voilà. Voilà. Alors, Jérôme Kumboso, est-ce qu'on peut avoir accrédité, est-ce qu'il peut y avoir également des observateurs au niveau du serveur central de la CENI?
Oui, tout à fait normal. Ça fait partie du processus de la transparence du processus électoral.
Oui.
Il peut y avoir des observateurs nationaux comme internationaux.
Mais des observateurs des partis politiques
pourquoi pas,
de l'opposition.
Pourquoi pas, c'est ça la transparence. Même le reste est transparent.
Oui.
C'est la population du processus aux uns aux autres, et surtout à la population congolaise. Parce que les élections, c'est une affaire nationale. C'est tout d'abord une affaire des Congolais.
Oui.
Et c'est les Congolais qui s'approprient de ce processus. Il n'y a pas de tabou, il n'y a pas de coin secret. On doit cacher quelque chose que ce soit. Mais c'est tout se passe dans le dialogue, tout se passe dans le consentement mutuel, tout se passe dans le souci de voir les élections de pouvoir aboutir de façon apaisée. Mais quand il y a de haut et de bas, quand il y a des discours de personnes, là, ça risquerait de créer encore de problèmes à ce niveau d'essayer de malentendre. Nous disons que tout ce qui est processus est transparent, tout ce qui est processus est à la portée de toutes les parties prenantes au bout de l'étoile.
Alors, vous avez dit tout à l'heure, il y aura 62 000 bureaux de vote à travers le pays, donc je suppose qu'il y aura également 62 000 observateurs ou plus.
Il y en aura plus parce que cette année nous sommes organisés au niveau de la société civile, c'est-à-dire nous passons les confessions religieuses, les syndicats et d'autres structures. Nous pensons que nos collègues qui viendront de la communauté internationale et préféreraient rester logés à l'hôtel Memling, au grand hôtel, ils vont rester ici, voir la tribu la Gombe et ainsi de suite. Mais ils ne vont pas descendre au fin fond de Katakan Gombe ou
pour les territoires
et prendre le moto ou le vélo. Non, ils ne vont pas faire ce genre de tourisme électoral, ils vont s'abstenir de rester dans de grands centres. Mais c'est à nous, avec les confessions religieuses, de voir là, ce que nous appelons l'observation électorale de proximité, où dans chaque bureau de vote, nous devons avoir au moins un observateur qui nous donne des informations, parce que nous ne pouvons pas nous fier aux déclarations des témoins des partis politiques.
Mais ces observateurs ne vont pas tous partir de Kinshasa. Il y a d'autres qui seront formés dans les différents territoires.
Mais nous faisons ce qu'on appelle une formation en cascade et en boule de neige. Une formation en boule de neige, c'est-à-dire on forme dans chaque sous-région où on est. Le former vont former aussi les autres, ainsi de suite. Le souci, c'est de découvrir le 102 000 bureaux de vote pour avoir l'information objective de ce qui va se passer dans ce bureau le jour du scrutin et surtout le moment des documents et le moment des signatures du procès verbal des documents.
Les questions de préoccupation, appelez-nous au 081-890-63-94.
Écho d'économie sur Radio Okapi, la vie économique du Congo a une vitrine. Écho d'économie, 18h15 heure de Kinshasa, un magazine qui prend la température. Les marchés, la vie des entreprises, le monde rural, des questions se posent, nous y répondons clairement. Les bonnes initiatives, une nouvelle idée, reportage sur le Congo qui bouge. 18h15, Écho d'économie, une émission de référence qui parle à tout le monde.
Nous parlons du rôle d'un observateur électoral avec Jérôme Bonceau, président de la Ligue nationale pour les élections libres et transparentes. Vous avez dit tout à l'heure que la présence d'un observateur peut gêner certains et il peut recevoir des intimidations. Généralement, comment ça se passe?
Oui, parce que vous savez, moi je fais de cette affaire, de cette mission d'observation, un job. J'étais dans certains pays africains où le pouvoir organisateur vous approche pour dire prenez le moyen, faites une déclaration pour que tout a été bon, très bon et transparent. Quand même on a pensé sur le terrain, il y avait quand même
on vous propose
certains moyens pour faire ce genre de déclaration. Ou bien, c'est pourquoi nous disons au niveau de la loi, en ce qui concerne la CENI, c'est prévu qu'un observateur électoral, national ou international, qu'on se comporte de cette manière, il y a une sanction. La sanction, c'est quoi? C'est retirer l'accréditation. Quand on vous retire l'accréditation.
Mais comment vous allez le retirer? Parce que les élections vont se passer un seul jour, exemple, le 28 novembre, et à la soirée, il donne son rapport, et puis tout est fini.
Non, tout n'est pas fini. Mais non, parce que cet observateur, ce qu'il a donné, ce qu'il a donné l'information, c'est prêt. Rapport, il n'a pas encore établi son rapport final de l'observation. Donc, c'est pourquoi dans ce genre de choses, la loi prévoit le comportement de l'observateur électoral. Il ne doit pas se substituer aux lois du pays. Il ne doit pas marcher sur la constitution du pays. Il ne doit pas marcher sur le loi. Il doit se conformer, mais faire son travail dans ce qui concerne sa mission d'observation. Il est libre de dénoncer, de déceler le fraude électoral, de le dire et informer l'autorité compétente. C'est ça la mission de l'observateur. Et faire son rapport dire ce qui s'est passé. C'est une parodie d'élection, ce n'est pas une élection démocratique. Et c'est pourquoi la mission de ces observateurs, on est dans certains pays que nous avons eu la chance de servir. Les gens étaient mécontents, il y avait des imbéciles. Quand ils ont vu les observateurs, moi j'étais parmi les 22 000 observateurs, qui ont pris l'élection multinationale en Afrique du Sud. Mm-hmm. Et les gens, quand ils ont vu l'enquête en tenue d'observateur, et ça donne la confiance à tout le monde.
On vous donne une tenue par
vous. Vous avez des bagues, vous avez des capuches, vous avez des gilets.
Et c'est bien la tenue observateur.
Oh, super, vous êtes bien habillé, bien coiffé, et ça dépend de la mission de sa mission d'observation.
Oui.
Pour répondre aussi à M. Géry, nous étions en Afrique du Sud, il y avait la mission de l'Union africaine. Nous avons dans d'autres pays de l'Union africaine, on voit les observateurs.
Oui.
Donc, c'est une mission. On échange d'informations parce que le problème des élections, c'est un problème beaucoup plus sensible.
Oui.
Si ce n'est pas bien maîtrisé, si la confiance, absolue confiance, si les consensus sont rompus, il faut faire tout pour que ça ne puisse pas rebondir sur le conflit. C'est ça la mission. C'est pourquoi l'observateur électoral joue un rôle important, mais qu'il soit avisé, qu'il puisse faire du tourisme électoral ou faire des déclarations tempestives pour amuser ou bien intéresser.
Oui.
Même aux collègues qui viennent des observateurs internationaux qui ont leur agenda pour les intérêts sur le pays qui aurait des élections, ils doivent aussi se conformer pour donner l'information, le rapport reflétant la réalité sur le terrain.
Voilà. Gelor Singinika nous appelle de Kananga. Bonjour, Gelor. Gelor, bonjour. Gelor n'est plus. Il n'est plus en ligne. Camille nous appelle de Kinshasa. Bonjour, Camille.
Bonjour.
Quelle est votre question?
Oui, ma question c'est. Quelles sont les assurances, M. Bosso, que nous donnons par rapport au déploiement des témoins dans chaque bureau de vote? Ils ont parlé de 62 000 bureaux de vote à l'intérieur. Parce que nous voyons déjà ces contents des grands centres dans les villes, et puis, mais nous voulons vraiment dans les fins fonds, tout ça, quelles sont les assurances? Ils peuvent nous assurer qu'effectivement, ils vont déployer effectivement des témoins dans chaque bureau de vote. Ça, c'est ma première préoccupation.
Oui.
La deuxième préoccupation, si on peut faire une observation à la CENI, si Radio Capi peut inviter la CENI, pour nous assurer à ce qui concerne la publication, les dépouillements. Elles sont pas dépouillements en direct. Autant donné qu'on a 169 bureaux de dépouillement d'achat. Et si ça se passe, on n'a pas besoin de servir, on peut le faire même en direct en extrait. Si ça se passe, on peut le faire en direct, on dit à Bouende tel aïe autant, à Lumbashi tel aïe autant, à Lukunga tel aïe autant, à moi, on peut le faire en direct. Pourquoi nécessairement servir les gens se disent si les codes sont servis? Donc on peut le faire en direct si ça se passe, quand on appelle devant les témoins, tout le monde dit à tel circonstance, tel aïe, tel après des primes. Donc ce sont des propositions qu'il faut quand même nous inviter les gens de la à piper pour essayer de répondre à ces préoccupations-là. Voici les deux que nous avons déjà à ce sujet.
Merci Camille. Gelor Singi Nika de Kananga, bonjour.
Bonjour, je le temps, bonjour à l'invité, bonjour à tout le monde.
On vous écoute, quelle est votre question, Gelor?
Je vais poser une question à l'invité, parce que moi-même, je me suis présenté à Kananga, mais en deux.
Dommage, il y a sûrement un problème de liaison téléphonique. On va peut-être le retrouver plus tard, Monsieur Jérôme Bosso.
Oh, Monsieur Camille, quelle assurance on peut vous donner? Non, l'assurance, c'est vous-même qui allez vous donner. quand vous allez, vous devez vous approprier du procès électoral. En vous appropriant du procès électoral, si vous êtes membre d'un parti politique, vous devez dire à votre parti à ce que dans tous les points qu'il y ait un témoin, parce que la loi le prévoit, qu'il y ait des témoins de parti politique dans un bureau de vote, lors du début à la fin. Et la loi prévoit à ce que.
Il y a des coins enclavés dans ce pays, inaccessibles.
Il y a des gens. Quand on est parti national, on est parti national. Quand on est parti provincial, on est parti provincial. On est en mesure de couvrir l'ensemble de son terroir. À ce moment-là, on est en mesure de déployer les témoins dans tous ces coins. Quand on le déploie, chaque témoin va sortir avec son PV, PV de document. Et c'est ça un instrument juridique qui peut permettre aux partis politiques de revendiquer, de recourir aux contentieux électoraux. Partant ce document-là, on peut le faire.
Oui.
Et quand vous demandez à la CENI de faire le direct du document, attention, le document devient un document des opérations électorales, c'est un problème technique. Il y a des données qu'on ne peut pas aussi donner de façon lancée, de façon brute, à la télé directe, voilà, et on note. Et c'est ça, c'est le candidat. Parce qu'il y a un certain appel. La compilation
de données. Il faut compiler les données de partout.
Mais quand un candidat vient dans un coin avec 8000 voix, par l'autre, 3000 voix, on lui a déjà eu 8000. On aurait dû s'en comprendre. Donc il faut éviter le direct, mais du moins, dans cette fameuse circonscription, vous avez des témoins qui vous donnent des informations. Vous, à votre niveau, vous faites aussi le calcul. La loi ne vous interdit pas de faire le calcul. Et vous allez comparer votre calcul à ce que le pouvoir. Vous n'allez pas vous présenter et vous tous vous investissez dans la transparence des opérations électorales. Donc, c'est une assurance que nous pouvons nous donner mutuellement, mais personne ne peut vous venir vous dire, comme l'opposition électorale, comme si ça appartenait à une autre personne, à un autre monde, or, ça appartient aussi à Camille qui doit s'investir.
Oui, Camille aussi doit s'investir. Des questions, des préoccupations, appelez-nous au 081-890-63-94.
Radio Okapi, Radio Amani, nimesindikiza uchaguzi ujao. Tangu tarehe 29 mwezi huu wa 8 mwaka tunao, utapata vipindi vipya kuhusu maswali yanayoelekea CENI, yani question à la CENI katika Kifaransa, na pia uchaguzi, yani les élections, c'est facile à comprendre. Kila siku kupitia Radio Okapi. Ni bahati kwenu, mtume maswali yenu yote tangu sasa kwa komisheni ya uchaguzi wa taifa huru, yani CENI kwa kifupi, na kutuandikia ma SMS kupitia namba hiyo ya simu ya mkono 0810000571 au kupitia internet kwa election@radiookapi.net. Mutume maswali yenu kwa CENI tangu leo, mtapata majibu tangu tarehe 29 mwezi huu wa 8 kupitia Radio Okapi.
Quel est le rôle d'un observateur électoral? Alors, Jérôme Bonceau, un observateur domestique doit provenir essentiellement doit provenir de la société civile, pas des partis politiques.
Non, partis politiques ne parlent pas de...
Là, on parle de témoins.
Là, on parle de témoins. C'est vraiment...
Mais il fait le même travail qu'un observateur...
Lui, il fait un autre travail différent. Parce que quand l'élite nous fait le module de formation des témoins de partis politiques et des observateurs électoraux, c'est différent. Lui doit tenir les statistiques. Doit tenir des statistiques des entrées des gens qui viennent dans le bureau de vote pour faire, parce qu'on sait que dans ce bureau de vote, il y a 500 ou bien 300 enrôlés. Et la liste, on a vu que les 300 enrôlés dans ce bureau de vote, tous les 300 sont passés. Mais si les statistiques montrent qu'il y avait 300, mais il y a eu 400 qui ont voté, et le témoin des partis politiques, quand il doit poser des questions au président du bureau de vote, lui pose des questions.
Il y a certaines personnes qui devaient aller, par exemple, voter à Baroumbou, mais elles préfèrent aller voter à Gombe.
Mais sur la liste est là, on va vous dire, mais sur votre nom, ne s'inquiète pas ici.
Donc, vous ne pouvez pas voter ici.
Non, il n'y a pas une mesure à moi qui une dérogation, comme nous avons vu au Bénin, où je suis rentré lors d'une mission d'évaluation pour l'électorat béninois. On a vu que jusqu'au dernier jour, le Béninois n'avait pas terminé l'opération de réfugiés du système électoral. Et tout le monde n'était pas en possession des cartes
d'électeurs.
Et c'est pourquoi il y a eu une dérogation. Et chacun peut voter avec n'importe quelle sans carte électorale. Et chacun peut se prêter sur n'importe quelle liste. Donc il y a eu un peu de confusion.
Oui.
Il y a une dérogation. Mais enfin, il n'y a pas de dérogation. Pour avoir de dérogation, il faut qu'il y ait toute une démarche. Pourquoi on veut accorde la dérogation à tel individu. Votre nom, allez là où vous êtes enrôlé. C'est à ce moment-là, le rôle d'un témoin parti politique, il doit être vigilant, parce qu'il doit signer ensemble avec le membre du bureau, avec le président du bureau, le préfet d'ouverture du bureau, préfet de clôture des opérations de vote, et préfet d'ouverture du processus de document, et préfet de clôture, ainsi de l'ouverture de clôture. Oui. Et quand tu vois des anomalies, le témoin témoin dit qu'il l'arrête. C'est pas normal, il y a des anomalies, on arrête, on revoit, on corrige. Or, c'est pas le travail de l'observateur. L'observateur ne peut pas arrêter le processus en marche, ne peut pas faire de remarques au président du bureau de vote.
Donc, il est là, calme dans son coin, du matin au soir.
Il fait son travail, il va même enregistrer les accrochages ou bien les remarques, le témoignage avec le président du bureau de vote.
Il enregistre tout.
Il enregistre tout. Et il va faire maintenant la
tête. Mais à un moment, il va pas se fatiguer, il a besoin d'aller aussi un peu au restaurant prendre.
Oui,
un coca ou manger.
Nous avons parlé de deux, au moins deux témoins, deux observateurs. Quand l'un parle, l'autre reste. Pas tous les deux,
pas tous les deux au même moment.
C'est ça aussi le président de témoins de parti politique.
Oui.
Il dévoile les témoins sans collation. Parce que du coup, le matin, il n'a même pas une sachet d'eau. Et il doit aller chercher, c'est au moment où on doit le distraire. Pour aller chercher une sachet d'eau, pour les gens, dans les documents, on dit est-ce que vous avez chercher un peu d'eau? Il est nourri par le parti adverse. Nous sommes en même des Congolais. Ton parti n'a rien de. Viens, on partage dans les partout. Viens, on partage. Quand on le dit dans le repas, les choses se passent. Donc, nous avons dit qu'il ne faut pas dévoiler des témoins rebelles. Il faut assurer des collations.
Même les observateurs, ils
doivent
assurer leurs collations.
Là, c'est planifié. Quand on le voit, on sait. Quelle est la logistique? On sait qu'à quel moment ils vont donner l'information. Si l'un sort voyager et l'autre reste dans la salle, dans la salle.
Oui.
Mais si tous les deux vont se faire, c'est que je suis dans d'autres pays, peut-être que vous allez citer les mêmes pays. Il y avait des choses impossibles. C'est la gestion des témoins de parti politique dans le bureau de vote.
Oui.
Et tout qui sort dans les pays,
ils
n'ont même pas réuni pour ni trouver ni quoi que ce soit. Je parle. Mais c'est un parti politique.
Venez, on va manger ensemble. Voilà, Jean Bosco, président de la Ligue nationale pour les élections libres et transparentes. Je vous remercie.
Merci.